de résistance. Une série d'émissions en 9 épisodes, les mains dans la terre, la langue dans nos assiettes.
Tourner nos micros vers le territoire et sa façon de s'alimenter. Écouter les voix de ceux qui produisent ce que nous mangeons.
Par habitude, on se simplifie énormément la tâche au niveau alimentaire. On est hyper local.
Le terrain d'écoute est rural et tend une oreille vers les petites villes qui feront peut-être demain.
Non. Là, j'en mangerai, moi. Alors, comment c'est pour moi ?
Oui, je t'en mets 500 grammes.
Ah, 1 kilo, ça diminue, ça, oh.
Donner à entendre ce qui s'y pense et s'y mange.
Ouais, c'est bien.
C'est l'histoire de nos assiettes qui est en train de s'écrire.
Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites comme radio ?
C'est la radio là, je ne sais pas si vous connaissez.
Ah oui ?
Ouais. Et on prend du son, du marché, de l'ambiance du marché.
Ah oui.
Vous venez souvent ?
Garder l'eau au plus près. Au pays de Dulphy Bourdeau, c'est une histoire de production agricole locale qui s'inscrit dans nos sols.
Plus donc il y a d'eau, plus d'un point de vue écologique il peut y avoir de gens qui sont nourris sur un territoire. Et donc plus on va manger des végétaux, mais aussi on va avoir des densités de population colossales. Alors que s'il n'y a pas beaucoup d'eau, eh bien on va avoir des animaux et donc on va avoir une densité de population beaucoup plus faible sur le territoire. Donc c'est intéressant qu'il y ait une sorte d'ajustement écologique entre tout ça.
On a grandi dans une société où on est né avec un robinet, voire 4-5 robinets dans nos foyers. On ne paye pas forcément très cher, on a une facture d'eau, mais ça marche grosso modo tout le temps, il y a peu de problèmes sur le réseau. On est assez en fait déconnecté de là d'où vient notre eau. Et c'est pareil pour l'électricité, hein. On allume la lumière, on a un interrupteur, voilà, bon, on paye. C'est génial d'avoir cette infrastructure, mais d'un autre côté, ça nous déconnecte complètement de tout les coulisses en fait de l'eau, donc que ce soit l'assainissement ou la potabilisation, la distribution.
Où il est le président du syndicat de l'eau? Qui c'est le président du syndicat de l'eau? C'est pas moi, c'est toi!
Mais je suis le président de l'eau parce que je suis le maire, et je suis le maire parce que j'ai le téléphone!
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Mais ça, c'est ta quittance d'eau!
Parfaitement! 50 de vin et le timbre! Alors vous les avez bien pris, mes sous? Où elle est cette eau que j'ai payée? J'ai payé l'eau, je veux mon eau!
Écoute, un camion citerne va venir tous les jours de la préfecture. Tu viens avec ton mulet de tonneaux, tu auras droit à 150 litres d'eau par jour, comme tout le monde.
Premièrement, j'ai pas de mulet, j'ai un âne. Deuxièmement, 150 litres, c'est bon pour un bistrot, pas pour une prairie. Troisièmement, j'ai payé de l'eau de source, pas de l'eau de camion.
À mon avis, l'eau du camion provient sûrement d'une source.
Pas de la mienne. J'ai payé l'eau, je veux mon eau.
Mais ne crie pas si fort. Tu nous fatigues, tu te fatigues, ça tient à rien.
Oh, bonne mère, et mes aubergines, et 600 pieds de pommes d'amour grosses comme le poing.
C'est un malheur général, c'est un cas de force majeure.
Moi aussi, je suis majeur. J'ai payé l'eau, je veux mon nom.
Mais puisque la source ne coule plus, où veux-tu que nous la trouvions?
Où vous voulez, mais faites-la sortir de mon tuyau.
Mais ça devient de plus en plus complexe dans une situation où on peut transporter des tas de choses. Et donc on s'est un peu délocalisé, déterritorialisé. Et aujourd'hui, il y a effectivement un enjeu fort de comprendre les choses globalement tout en se réancrant dans nos territoires.
Il y a un problème d'eau, très nettement. Moi, j'ai pas une grosse expérience, mais j'ai connu énormément d'années de sécheresse depuis que je me suis installé. Alors, je m'appelle Valérie Martineau. J'ai 50 ans et je suis maraîcher en agriculture biologique à Saint-Gervais-sur-Roubion depuis 10 ans. Même cette année, qui est une année très humide où il pleut depuis le mois de mai, en fait on est en déficit hydrique des nappes souterraines parce qu'il n'a pas plu de l'hiver et du coup il n'y a eu aucun rechargement de ces nappes. En surface on patauge, les légumes tombent malades, mais en souterrain on est en déficit grave. On est sur des situations très paradoxales finalement. Et c'est l'utilisation de l'eau qui est contestable bien souvent. Ici, on est dans une plaine semencière. Donc on fait du maïs, du tournesol semence. J'imagine que c'est quelque chose qui est exporté au moins au niveau national, peut-être au niveau mondial. Et finalement, on exporte de l'eau. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'exporter de l'eau en dehors du département ou en dehors de la France? C'est une vraie question. On utilise des quantités astronomiques de flotte pour faire du maïs. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des quantités astronomiques de flotte pour faire des légumes ou pour faire autre chose que du maïs, quoi. On a tous le sentiment de constater des éléments du dérèglement climatique, mais c'est, ça joue sur des variables tellement nombreuses. Mais j'ai quand même le sentiment que ça se réchauffe et que des espèces d'insectes qu'on ne voyait pas apparaissent, que des arbres qui avaient l'habitude de bien pousser ici poussent moins bien ou crèvent. Donc le changement, il est là, quoi. Les cigales, elles sont à Lyon maintenant, quoi. Donc, avant, elles étaient que dans le sud, quoi, quand même.
D'abord, les ressources en eau ne se raréfient pas vraiment beaucoup. C'est souvent qu'on en utilise plus et qu'on en utilise trop. Daniel Zimmer, je suis en ce moment responsable des activités sur la gestion durable des territoires à la KIC Climat. J'ai été précédemment en charge du Conseil mondial de l'eau. De manière générale, le remplissage des nappes, c'est quelque chose qui ne se produit que pendant, je dirais, 2, peut-être maximum 3 mois, pendant les mois d'hiver. Pourquoi ? Parce que pendant tout l'été, donc les plantes pompent l'eau dans les sols, et donc il faut en général 2 à 3 mois de pluie à l'automne pour reconstituer les réserves superficielles. Et ce n'est qu'une fois que ces réserves superficielles ont été reconstituées qu'on peut commencer à reconstituer des réserves plus profondes. Si on a peu de pluie pendant les mois janvier, février, mars, et même on peut dire ici janvier, février, et bien après, on peut faire ce qu'on veut. À partir du mois de mars, toute l'eau qui tombe est réabsorbée par les plantes qui la réévaporent immédiatement. Donc on n'arrive plus à recharger les réserves profondes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. 2 mois de sécheresse en hiver, c'est la meilleure recette pour avoir une sécheresse en été. D'un point de vue plus pratique et à un niveau plus local, si on veut, par exemple, gérer l'eau de manière plus efficace, eh bien, c'est, par exemple, diminuer les besoins en eau d'irrigation sans diminuer fortement les rendements. Donc, il y a souvent un optimum à trouver. Mais surtout, on peut avoir des pratiques de régénération des sols qui permettent par exemple de stocker du carbone dans les sols et qui permettent d'avoir plus de matière organique, ce qui permet de stocker plus d'eau aussi, puisque en fait, plus un sol est riche en matière organique, plus il va pouvoir stocker de l'eau. Et donc là, toutes les pratiques agroécologiques qui se mettent en place et qui permettent de régénérer justement les sols et de restocker de la matière organique sont plus que bienvenues pour diminuer aussi les besoins ou en tout cas augmenter la résistance des plantes à la sécheresse. Dans ces pratiques, il y en a une qui est sans doute la plus importante, c'est d'avoir un couvert végétal tout au long de l'année. Mais ça a des coûts. Et donc, on voit très vite qu'il faut trouver une solution pour que les agriculteurs soient rémunérés pour mettre en place cette pratique toute simple d'avoir un couvert végétal en permanence.
C'est l'eau du réseau pour la fromagerie. Et après, nos terres, elles ont l'eau de pluie.
Ok.
C'est tout. On n'a aucune irrigation. Et d'ailleurs, quand le paysan s'est arrêté et nous a proposé toute la grande parcelle, là, ouais, en plus, qui fait que le voisin, du coup, a récupéré, qui faisait 14 hectares, d'un tenant, on ne l'a pas voulu. Aussi parce qu'il y avait une bouche du Rhône et on ne voyait pas ce qu'on allait pouvoir en faire. Si on l'avait pris, peut-être on ferait différemment, mais bon, on préfère adapter nos cultures plutôt que d'arroser et faire du fourrage à l'eau du Rhône. Quoi. Voilà.
Ouais,
du coup, on a un peu plus de terre pour pallier à ça. Voilà.
Donc c'est Laure et Nicolas Charouin, associés du GAEC Ferme la Feille, qui loue les terres à Laure et Nicolas Charouin, propriétaires du lieu. Donc on est une ferme en polyculture-élevage, en élevage ovin, lait, en transformation fromagère, en agriculture biologique. Ça fait 15 ans que l'on est installé. Non, mais on s'en sort malgré tout, et puis c'est surtout que le manque d'eau est certain, il est même amplifié. On essaye d'y remédier par des modes de pratique un peu d'actualité qui sont les plantations d'arbres et de haies aussi en bordure de champs. Donc les plantations de haies, c'est essentiellement pour se protéger du vent, de l'érosion des terres, enfin du ruissellement des pluies, de l'eau et puis aussi des produits phytosanitaires des voisins. Malgré tout, et les haies intraparcellaires, donc ce sont des haies d'arbres qui sont plantées tous les 21 mètres, 24 mètres, enfin bon, ça dépend des conditions, qui sont là notamment autour de la ferme, qui sont essentiellement faits pour pallier à cette sécheresse au fil des années. Et donc ces arbres que l'on espère voir grandir relativement vite sont destinés à protéger les cultures en place et surtout faire de l'ombre pour les brebis, maintenir quand il pleut, maintenir au maximum l'eau dans tout le système racinaire pour le restituer ensuite tout son périmètre environnant, etc. Donc c'est vraiment... les arbres sont vraiment là pour pallier à cette problématique de sécheresse amplifiée quoi, au fil des années. Voilà, donc ça c'est au moins pour répondre au fait qu'on n'ait pas d'irrigation, de système d'irrigation, et que l'on n'en veut surtout pas. On préfère trouver des solutions,
arbres.
Quoi.
Planter des arbres.
Cette année, on reconduit le projet avec... Alors l'année dernière, c'était avec la DAF. Là, on reconduit le projet de plantation d'arbres avec la DAF. Ça va être en décembre pour ça. En partenariat avec l'Hirondelle Auchan aussi, ouais. Qui propose de nous faire un suivi technique et un audit aussi sur la ferme pour connaître un petit peu les problématiques liées à ces manques d'eau, quoi.
la réaction ou l'attitude par rapport à l'eau en général, toutes les installations qui sont faites à une échelle paysagère plus large, c'est qu'on évacue au plus vite l'eau. Et là, la stratégie, ça va être comment on la retient le plus longtemps possible sur la ferme, mais pas seulement dans des bassins de rétention en eau qu'on va utiliser pendant l'été, mais comment déjà on le retient dans le sol, dans le système de culture, dans l'écosystème. Et donc moi, c'est André Siffer. Initialement, je suis docteur en biologie, exactement physiologie végétale, biologie moléculaire, génétique et biochimie. L'agroforesterie, c'est l'association des cultures pérennes, donc des arbres et arbustes, avec les cultures annuelles. Donc du coup, ça peut être des légumes, ça peut être des céréales, des oléagineux, différents types de cultures. Et on parle plus loin, on parle d'agro-silvo-pastoralisme, puisqu'en fait, dans l'agroforesterie, le système le plus complet, c'est d'associer les arbres avec les cultures annuelles et d'avoir les animaux aussi dans le système. Du coup, on va avoir des aménagements différents quand c'est associé aux animaux. Il faut savoir qu'un sol vivant va faire que l'eau va pénétrer jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres en profondeur. Et un sol vivant qui est nu, l'eau va pénétrer sur quelques centimètres et puis va s'écouler à toute allure vers dans les pentes, vers les zones plus basses et va sortir de l'espace de culture, de la ferme, va descendre jusqu'en dans la vallée, va gorger les fleuves, les rivières, et puis en emmenant le sol. Alors que si c'est un sol couvert, il tient un peu plus retenu. Si le sol est plus poreux, il retient mieux l'eau. Si la plante pousse dans un sol poreux, elle va profiter beaucoup plus de cette humidité résiduelle qui est maintenue même en cas de sécheresse. Il y a une résilience, comme on dit, du coup, de tout le système. Et du coup, les plantes vont pouvoir profiter de l'eau beaucoup plus longtemps. Les arbres jouent un rôle énorme, puisque eux, ils régulent le mouvement de l'eau dans les sols jusqu'à 100 mètres de distance. On a toute une régulation déjà de l'eau dans le sol et aussi de l'eau dans l'atmosphère. Puisqu'en fait, il transpire une centaine de litres, voire plus, en fonction de la taille de l'arbre par jour. Et ils permettent l'accumulation, la gestion du cycle de l'eau, favorisent le stockage de l'eau à travers l'humidité dans l'air, les précipitations. Donc là, on est à une autre échelle encore, c'est gérer l'eau dans l'atmosphère. Ça peut aller très loin. Et là, les arbres, on a quand même fait beaucoup de déboisement, de déforestation. Et on sait les conséquences que ça a à une échelle paysagère. Quoi. Une approche globale. D'une part, planter des arbres, planter des haies denses, même, ça peut freiner la circulation de l'eau. Mais faire que ça, à nouveau, ça ne suffirait pas, parce que si on a une grande pluie importante qui arrive, on va freiner, certes, la circulation de l'eau, mais on ne va pas obligatoirement la retenir réellement. Et là, c'est à nouveau la combinaison couverture végétale, horizontale et verticale. C'est qu'ensuite, c'est les méthodes de travail du sol dans les parcelles. Si on travaille selon les courbes de niveau et qu'on a des méthodes superficielles d'aération avec des genres d'outils comme des sous-soleuses, mais qui ne vont pas trop profondément, où on descend progressivement et en créant des mini-sillons dans le sol. Donc c'est le sol qui va emmagasiner l'eau, le stocker, mais pas que en hiver. C'est-à-dire qu'en pleine saison de culture, au lieu de garder l'eau juste pendant 2-3 semaines, il va le garder pendant un mois, voire plus. Donc c'est le sol qui va stocker l'eau. On parle là d'hydrologie régénérative, c'est-à-dire qu'on a une démarche qui va faire qu'on gère l'eau d'une autre manière sur les parcelles. Donc c'est une question qui nous intéresse beaucoup, d'accompagner les agriculteurs dans la gestion globale de l'eau à l'échelle de la ferme, pas que d'une parcelle.
ben, je m'appelle Benoît. Avant, ici, l'eau était pompée sur place et on la consommait sur place, quoi. J'ai même donc une parcelle qui est donc juste à côté du captage d'eau de Saint-Gervais. Elle pourrait presque faire partie, cette parcelle-là, de notre îlot. Mais elle nous touche, quoi. Et cette eau-là, elle n'est plus pompée parce qu'elle est trop souillée, quoi. Elle est trop, il y a des traces d'atrazine. C'était donc un désherbant contre les graminées dans le maïs. Donc ça, donc il s'en est mis ici en pagaille. Voilà, ça fait peur, quoi. Atrazine et puis nitrate aussi, beaucoup. Donc du coup, maintenant, donc, la Bégude, elle a l'eau qui vient de Port-en-Valden, donc des montagnes qu'il y a donc, en face, là, des ahus. Et puis en fait, ils en prennent encore donc, un petit peu peut-être ici lorsque ça manque, là, mais juste pour arriver au seuil de potabilité, quoi. Ils en mettent peu, quoi, parce que sinon ils font exploser le truc, quoi.
Et donc ça, c'est pour l'eau potable de la commune.
Ouais. Ici, je pense qu'il y a quand même un gros, gros problème, c'est le maïs semence, quoi. On n'est pas une région à faire du maïs, quoi, parce que c'est donc hyper demandeur d'eau. Et comme on sait, les grosses chaleurs qu'il fait ici, le vent qu'il y a, une évaporation qui est terrible, quoi. Donc du coup, bah, tu mets encore plus d'eau. Voilà. Donc vu qu'il ne fallait pas trop pomper dans les rivières et puis dans les puits parce qu'on assécherait tout, quoi. Ouais, c'était un petit peu ce qu'ils disaient à l'époque. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus à mettre l'eau du Rhône, ce grand réseau de flotte du Rhône. Donc là après, donc, ça a été donc, la fête. Donc les robinets ont ouvert, donc les surfaces de maïs ont augmenté. Donc on a encore plus balancé d'eau, quoi. Et ça c'est grâce au Rhône, quoi. C'est grâce au Rhône. Après, je dirais qu'il y a quand même un point positif, c'est que les rivières et puis les puits servent moins. Donc du coup, il y a quand même plus d'eau dans nos rivières, donc on préserve un petit peu plus la biodiversité, quoi. Après, en bio, donc le problème, l'eau du Rhône, elle est polluée, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrose avec le Rhône ou alors est-ce que l'on continue de pomper dans nos rivières qui... Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Je dirais qu'on a la flotte qu'on mérite. Hein. Ouais, c'est... Avoir du Gore-Tex sur soi, avoir des gamelles qui sont en Tefal et tout ça, eh ben, c'est fait donc, dans des usines à Lyon ou alors plus haut et qui déversent dans le Rhône. Et ben, voilà. Alors qu'en bio, ben, on porte du Gore-Tex, on porte aussi de tout ça. Donc...
Et donc, ce qu'on va produire localement ne dépend pas uniquement, bien sûr, de ce qu'on mange localement, puisque beaucoup, je pense, des céréales qui sont produites ici. On produit aussi beaucoup de semences ici, donc tout ça, c'est pas pour le local. Et donc, il faut qu'on se rende compte quand même aussi qu'on est inséré dans un système de toute façon beaucoup plus global. Et donc, il faut à la fois réfléchir effectivement localement, mais comprendre qu'on est dans un système plus global, qu'il faut changer aussi si on veut changer ce qui se passe ici.
La lecture de L'empreinte eau, les faces cachées d'une ressource vitale, écrit par Daniel Zimmer aux éditions Charles-Léopold Meyer. Retrouvez également des informations à propos des rivières du territoire de Dulfi-Bourdeau sur le site du syndicat mixte du bassin du Roubion et du Jabron, smbrj.fr. Plat de résistance, une série documentaire réalisée par Pauline Lemaire-Desmarais, Noé Guiraud, Xavier Charles et Clara Vincent. Création musicale, Xavier Charles. Mixage, Antonin Guerre. Avec le soutien de Popsu Territoire, du programme Leader et de la communauté de communes de Dulfi-Bourdeau. Un grand merci à Benoît Gontard, Valérie Martineau, André Siffer, Daniel Zimmer et Laure et Nicolas Charouin. ainsi qu'aux anonymes des marchés de Dulfi et de Montélimar. Vous avez entendu un extrait de la bande-son de Manon des Sources, film réalisé par Claude Berry d'après Marcel Pagnol en 1986. Une production Radiola. Retrouvez tous les podcasts sur radiola.media/manger.